Chapitre 4. L'arrivée de Cutter. Depuis le petit incident de la tour d'alarme, mes sentiments à l'égard de notre locataire n'étaient plus les mêmes. J'avais toujours l'idée qu'il me cachait un secret, ou plutôt qu'il était à lui seul un secret, attendu qu'il tenait toujours le voile tendu sur son passé. Et lorsqu'un hasard écartait pour un instant un coin de ce voile, c'était toujours pour nous faire entrevoir de l'autre côté quelque scène sanglante, violente, terrible. L'aspect seul de son corps faisait peur. Un jour que je me baignais avec lui pendant l'été, je vis qu'il était tout zébré de blessures. Sans compter 7 ou 8 cicatrices ou estafilades, il avait les côtes d'un côté toutes déjetées, toutes déformées. Un de ses mollets avait été en partie arraché. Il rit de son air le plus gai en voyant mon étonnement. « Cossack, Cossack !» dit-il en promenant sa main sur ses cicatrices. « Les côtes ont été brisées par un caisson d'artillerie. C'est chose fort mauvaise quand des canons vous passent sur le corps. Ah, quand c'est de la cavalerie, ce n'est rien, un cheval. » Si rapide que soit son allure, regarde toujours où il pose le pied. Il m'est passé sur le corps 1500 cuirassiers et les hussards russes de Grodno sans avoir eu grand mal, mais les canons, c'est très mauvais. Et le mollet, demandai-je. Pouf, c'est seulement une morsure de loup, dit-il. Vous ne croiriez jamais comment j'ai attrapé cela. Vous saurez que mon cheval et moi... Nous avions été atteints, lui tué et moi les côtes brisées par le caisson. Oh, il faisait un froid si âpre, si âpre. Le sol dur comme du fer et personne pour s'occuper des blessés, de sorte qu'en gelant, il prenait des attitudes qui vous auraient fait rire. Moi aussi, je sentais le gel m'envahir. Alors aussi, que fis-je ? Je pris mon sabre et je fendis le ventre à mon cheval mort. Je fis comme je pus. Je mitaillais assez de place pour y entrer en laissant une petite ouverture pour respirer. Sapristi, il faisait bien chaud là-dedans, mais j'avais pas assez d'espace pour y tenir tout entier. Mes pieds et une partie de mes jambes dépassaient. Alors la nuit, pendant que je dormais... Des loups vinrent pour dévorer le cheval, et ils m'entamèrent aussi quelque peu, comme vous pouvez le voir. Mais après cela, je veillais, pistolet en main, ils n'en eurent pas davantage de moi. C'est là que j'ai passé très commodément 10 jours. « 10 jours ? » m'écriai-je, « et comment mangez-vous ? » « Eh bien, je mangeais le cheval. » Il fut pour moi ce que vous appelez la table et le logement, mais naturellement, j'eus le bon sens de manger les jambes et de ne pas toucher au corps. Il y avait autour de moi un grand nombre de morts qui tous avaient leur gourde à seau, de sorte que j'avais tout ce que je pouvais souhaiter. Et le 11e jour arriva une patrouille de cavalerie, légère alors, tout alla bien. Ce fut ainsi, par des causeries engagées accidentellement et qui ne valent guère la peine d'être rapportées séparément, que la lumière se fit sur sa personne et son passé. Mais le jour devait venir où nous saurions tout, et je vais essayer de vous raconter comment cela se fit. L'hiver avait été fort triste, mais dès le mois de mars se montrèrent les premiers indices du printemps, et pendant une semaine de la fin de ce mois, nous eûmes du soleil et des vents du sud. Le 7, Jim Ashcroft allait revenir d'Édimbourg, car bien que la session se terminât le 1er, son examen devait lui prendre une semaine. Eddie et moi, nous nous promenions sur la plage le 6, et je ne pouvais causer d'autre chose que de mon vieil ami, car en somme... Il était le seul ami de mon âge que j'eusse en ce temps-là. Eddie était très peu portée à causer, ce qui était chez elle chose fort rare, mais elle écoutait en souriant tout ce que je lui disais. « Pauvre vieux Jim, » fit-elle une ou deux fois à demi-voix, Pauvre vieux Jim. Et s'il a été reçu, dis-je bien naturellement, il fera poser sa plaque, et il aura son logis particulier, et nous perdrons notre édit. Je faisais de mon mieux pour tourner la chose en plaisanterie et la prendre à la légère, mais les mots me restaient encore dans la gorge. Pauvre vieux Jim, dit-elle encore, et en prononçant ces mots, elle avait des larmes dans les yeux. Ah, pauvre vieux Jack, ajouta-t-elle en glissant sa main dans la mienne pendant que nous marchions. Vous aussi, vous teniez un peu à moi autrefois, n'est-ce pas, Jack? Ah, voici, là-bas, un bien joli petit vaisseau. C'était un charmant petit cutter d'une trentaine de tonneaux, très marcheur, à en juger par ses mâts élancés et la coupe de son avant. Il arrivait du sud, sous ses voiles de phoque, de misaine et de grand-mât, mais au moment même où nous le regardions, toute sa voilure se replia soudain, comme une mouette ferme ses ailes, et nous vîmes l'eau rejaillir sous la chute de son ancre, descendant du Beaupré. Il était probablement à moins d'un quart de mile du rivage, si près même que je puis apercevoir un homme de haute taille, coiffé d'un bonnet pointu, qui se tenait debout à l'arrière et la lunette à l'œil, examinait la côte dans toutes les directions. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher par ici? Demanda Eddie. Ce sont de riches Anglais venus de Londres, répondis-je. C'était de cette façon-là que nous interprétions tout ce qui, dans les contrées de la frontière, échappait à notre compréhension. Nous passâmes presque une heure entière à examiner le joli vaisseau, puis, comme le soleil allait s'abaisser derrière une bande de nuages et que l'air du soir était assez piquant, nous fîmes demi-tour pour regagner West Inch. Quand on arrive à la ferme par la façade, on traverse un jardin qui n'est pas des mieux garnis et qui s'ouvre sur la route par une porte à claire-voie au moyen d'un loquet. C'était à cette même porte que nous nous tenions la nuit où les signaux furent allumés, la nuit où nous vîmes passer Walter Scott quand il revenait d'Édimbourg. À droite de cette entrée, et du côté du jardin, se trouvait un bout de rocaille qui, paraît-il, avait été construit par la mère de mon père. On y avait bien longtemps. Elle avait façonné cela avec des galets usés par l'eau, avec des coquillages de mer, en mettant des mousses et des fougères dans les interstices. Or, quand nous eûmes franchi la porte, nos yeux tombèrent sur cette rocaille. Au sommet était planté un bâton dans la fente duquel se trouvait une lettre. Je m'avançai pour voir ce que c'était, mais Heidi me devança, enleva la lettre et la mit dans sa poche. « C'est pour moi !» dit-elle en riant. Mais je restai à la regarder d'un air qui éteignit le rire sur sa figure. « Mais de qui est-elle, Eddie ? » demandai-je. Elle fit la moue, mais elle ne répondit pas. « Mais de qui est-elle, mademoiselle ? » m'écriai-je. « Se pourrait-il que vous ayez trompé Jim, comme vous m'avez trompé moi-même ? » « Oh, quel brutal vous êtes, Jack !» dit-elle vivement. « Je voudrais bien que vous vous mêliez de ce qui vous regarde. » « Ah, elle ne peut être que d'une seule personne, » m'écriai-je, « et cette personne, ce n'est autre que ce de Lappe. » « Eh bien, supposez que vous avez raison, Jack. » Le sang-froid de cette créature me stupéfia et me rendit furieux. « Vous l'avouez, » m'écriai-je, « mais est-ce qu'il ne vous reste plus aucune pudeur ? » ?»« Mais pourquoi ne recevrai-je pas des lettres de ce gentleman ? » ?»« Parce que c'est infâme ? » Et pourquoi? Parce que c'est un étranger. Il s'en faut bien, dit-elle. C'est mon mari. Ce qui se fit à West Inch. Je me rappelle fort bien cet instant-là. J'ai entendu des gens dire qu'un coup violent et soudain avait émoussé leur sensibilité. Il n'en fut pas ainsi pour moi. Au contraire, ma vue, mon ouïe et ma pensée se redoublèrent de clarté. Je me souviens que mes yeux se portèrent sur une petite boule de marbre de la largeur de ma main, qui était incrustée dans une des pierres grises de la rocaille, et que je trouvais le temps d'en admirer les veines délicates. Mais cependant, je devais avoir une étrange expression de physionomie, car la cousine Eddie jeta un grand cri et se sauva vers la maison en courant. Je la suivis, je tapai à la fenêtre de sa chambre, car je voyais bien qu'elle y était. « Allez-vous-en, Jack, allez-vous-en, cria-t-elle. Vous voulez me gronder? Je ne veux pas être grondée. Je n'ouvrirai pas la fenêtre, allez-vous-en. » Mais je persistais à frapper. « Il faut que je vous dise un mot. » « Qu'est-ce alors ? » dit-elle en entr'ouvrant de 3 pouces. « Dès que vous commencerez à gronder, je la refermerai. »« Êtes-vous vraiment mariée ?» dit. « Oui, je suis mariée. »« Qui vous a mariée ?» « Le père Brennan à la chapelle catholique romaine de Berwick. »« Vous, une presbytérienne ?» Mais il tenait à ce que le mariage se fît dans une église catholique. Et quand cela s'est-il fait? Il y aura une semaine, mercredi. Je me souviens que ce jour-là, elle était allée en voiture à Berwick et que de Lapp, de son côté, s'était absentée pour faire, à ce qu'il disait, une longue promenade dans la montagne. Mais, et Jim? Demandai-je. Oh, Jim me pardonnera. Mais vous briserez son cœur et vous ruinerez son avenir. Non, non, il me pardonnera. Il tuera de là, oh, Eddie. Comment avez-vous pu vous apporter tant de déshonneur et de souffrance? Ah, voilà que vous grondez, s'écria-t-elle. Et la fenêtre se ferma brusquement. J'attendis un peu et je frappai de nouveau, car j'avais encore bien des questions à lui faire, mais elle ne voulut pas répondre, et je crus l'entendre sangloter. Enfin, j'y renonçai, et j'étais sur le point de rentrer dans la maison, car il faisait presque nuit, quand j'entendis le pêne de la porte du jardin se soulever. C'était de là en personne. Mais comme il suivait l'allée, il me fit l'effet d'être ou fou ou ivre. Il marchait d'un pas de danse. Il faisait craquer ses doigts en l'air et ses yeux luisaient comme deux feux follets. « Voltigeur ! » cria-t-il, « Voltigeur de la garde !» C'est ainsi qu'il avait fait le jour où il avait eu le délire. Puis soudain, « En avant ! En avant !» Et il arriva en faisant tournoyer sa canne au-dessus de sa tête. Il s'arrêta court lorsqu'il vit que j'étais là, le regardant, et je puis dire qu'il fut un peu décontenancé. « Oh là là, Jack !» s'écria-t-il. « Je ne pensais pas qu'il y eût quelqu'un ici. Ce soir, je suis dans cet état d'esprit que vous appelez de l'entrain. » « On le dirait !» répondis-je avec ma brusquerie ordinaire. « Vous ne vous sentirez pas si gai demain quand mon ami Jim Ashcroft reviendra ici. »« Oh, il revient demain alors. Et pourquoi me sentirais-je moins gai ?»« Parce que, si je connais bien mon homme, il vous tuera. »« Ta 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 !» s'écria de Lapp. « Ah oui, je vois que vous êtes au courant de notre mariage et Eddie vous a parlé. » Jim pourra faire ce qu'il voudra. Vous nous avez joliment récompensé de vous avoir accueilli. Bon, brave garçon, dit-il, je vous ai, comme vous le dites, fort joliment récompensé. J'ai délivré Edith d'une existence qui est indigne d'elle, et je l'ai fait entrer par le mariage dans une noble famille. D'ailleurs, j'ai plusieurs lettres à écrire ce soir. Quant au reste, nous pourrons en causer demain, quand votre ami Jim sera revenu, pour vous aider. Il fit un pas vers la porte. Et c'était pour cela que vous attendiez à la tour d'alarme, m'écriai-je soudainement éclairé. Jack, voilà que vous devenez perspicace, dit-il d'un ton moqueur. Un instant après, j'entendis la porte de sa chambre se fermer et la clé tourner dans la serrure. Je m'attendais à ne plus le revoir de la soirée, mais quelques minutes plus tard, il descendit à la cuisine où je tenais compagnie aux vieux parents. « Madame, dit-il en s'inclinant la main sur son cœur de la façon si bizarre qui lui était propre, j'ai été l'objet de toute votre bonté, j'en garderai toujours le souvenir. » Je n'aurais jamais cru être aussi heureux que je l'ai été grâce à vous dans ce tranquille pays. Vous accepterez ce petit souvenir, et vous aussi, monsieur, vous agréerez ce petit cadeau que j'ai l'honneur de vous faire. » Il mit devant eux, sur la table, deux petits paquets enveloppés dans du papier, puis faisant à ma mère trois autres références, il sortit de la chambre. Son présent, c'était une broche au centre de laquelle était sertie une grosse pierre verte, entourée d'une demi-douzaine d'autres pierres blanches scintillantes. Jusqu'alors, nous n'avions jamais rien vu de ce genre. Je ne savais pas même quel nom leur donner, mais on nous dit, par la suite à Berwick, que la grosse pierre était une émeraude et les autres des diamants, et que le tout avait une valeur bien supérieure à celle de tous les agneaux qui nous étaient nés ce printemps-là. Ma bonne vieille mère est défunte depuis bien des années, mais cette superbe broche scintille encore au cou de ma fille aînée quand elle va dans le monde, et je n'y jette jamais un regard sans revoir ses yeux perçants et ce nez long et mince, et ses moustaches de chat qu'avait notre locataire de West Inch. Pour mon père, il avait une belle montre en or à double boîtier, et il fallait voir de quel air fier il la tenait sur le creux de sa main, en se penchant pour en percevoir le tic-tac. Je ne sais lequel des deux vieillards fut le plus charmé, et il ne voulait parler que des présents que leur avait fait le lap. « Il vous a donné autre chose encore, » dis-je enfin. « Quoi donc, Jacques ?» demanda mon père. « Ma mari, pour la cousine Eddie, » répondis-je. Lorsque j'eus dit cela, ils crurent que je rêvais. Mais lorsqu'ils eurent enfin compris que c'était bien la vérité, ils se montrèrent aussi fiers et aussi contents que si je leur avais annoncé qu'Eddie avait épousé le Laird. À dire vrai, le pauvre Jim, avec ses habitudes de grand buveur, de batailleur, n'avait pas une excellente réputation dans le pays, et ma mère avait dit maintes fois que ce mariage ne tournerait pas bien. D'autre part, de Lapp, autant que nous pouvions le savoir, était un homme rangé, tranquille et dans l'aisance. Il y avait bien le secret, mais en ce temps-là, les mariages secrets étaient chose fort commune en Écosse, car comme quelques paroles suffisaient pour faire d'un homme et d'une femme un couple, personne n'y trouvait beaucoup à redire. Les vieux furent aussi enchantés que si leur fermage avait été diminué, mais j'avais toujours le cœur endolori, car il me semblait que mon ami avait été traité avec la plus cruelle légèreté, et je savais bien qu'il n'était pas homme à en prendre aisément son parti. Le retour de l'ombre. Le lendemain matin, je me levai le cœur gros, car j'étais certain que Jim ne tarderait pas à paraître et que ce jour-là serait un jour de grand chagrin. Mais quelle somme de tristesse ce jour-là devait-il apporter? Jusqu'à quel point modifierait-il le destin de chacun de nous? C'était plus que je n'aurais osé en s'imaginer dans mes regrets les plus sombres. Permettez-moi cependant de vous conter tout cela dans l'ordre même des événements. Ce matin-là, je m'étais levé de bonne heure, car on allait entrer en pleine période de la mise bas des agneaux. Mon père et moi, nous partions pour le pâturage dès le petit jour. Lorsque j'entrais dans le corridor, un souffle frôla ma figure. La porte de la maison était entièrement ouverte, et la lumière grise de l'aube dessinait une autre porte sur le mur du fond. Je regardais. Je trouvais également ouverte la porte de la chambre d'Eddie et celle de Lap. Je compris alors, comme à la lueur d'un éclair, ce que signifiaient ces cadeaux offerts la veille. C'étaient des présents d'adieu. Tous deux étaient partis. J'eus de l'amertume au cœur contre la cousine Eddie en entrant et m'arrêtant dans sa chambre. Penser que pour un nouveau venu, elle nous avait laissés là, tous, sans un mot de bonté, sans même un serrement de main. Et lui aussi. J'avais été épouvanté de ce qui arriverait quand il se rencontrerait avec Jim. Mais en ce moment, on eût dit qu'il avait évité cette rencontre, et cela avec quelque apparence de lâcheté. J'étais plein de colère, humilié, souffrant. Je sortis au grand air sans dire un mot à mon père et je montai au pâturage pour rafraîchir ma tête échauffée. Lorsque je fus arrivé là-haut, à Corrymuir, je pus jeter un dernier coup d'œil sur la cousine Eddie. Le petit cutter était resté à l'endroit où il avait jeté l'ancre, mais un canot s'en était détaché pour aller la prendre à terre. À l'avant, je vis voltiger quelque chose de rouge. Je savais qu'elle faisait ce signal au moyen de son châle. Je vis ce canot atteindre le navire et ses passagers monter sur le pont. Puis l'ancre se releva et le navire fila droit vers le large. Je vis encore la petite tache rouge sur le pont et de Lap debout près d'elle. Il pouvait me voir aussi car je me dessinais en plein sur le ciel. Tous deux agitèrent longtemps les mains, mais ils y renoncèrent enfin, car ils n'obtinrent aucune réponse de moi. Je restai là, debout, les bras croisés, plus grognon que je ne l'avais jamais été en ma vie, jusqu'à ce que leur cutter ne fût plus qu'une légère tache blanche de forme carrée, se perdant parmi la brume matinale. Il était l'heure du déjeuner et la bouillie était sur la table quand je rentrais, mais je n'avais aucun appétit. Les vieux avaient pris la chose avec assez de froideur, bien que ma mère ne trouvât aucune expression trop dure pour Eddie. Elle n'avait jamais eu beaucoup d'affection mutuelle, en ces derniers temps surtout. « Voici une lettre de lui, » dit mon père en me montrant sur la table un papier plié. « Elle était dans sa chambre. Voulez-vous nous la lire ?» Il ne l'avait même pas ouverte, car pour dire la vérité, mes bonnes gens n'étaient jamais arrivés à lire couramment l'écriture, quoiqu'il se tirasse assez bien de l'impression en grand et beau caractère. L'adresse, écrite en grosses lettres, était ainsi conçue. « Aux bonnes gens de West Inch. » Quant au billet, que j'ai encore sous les yeux, tout taché et tout jauni, le voici. « Chers amis, je ne comptais pas vous quitter aussi brusquement, mais la chose dépendait d'une autre volonté que la mienne. » Le devoir et l'honneur m'ont rappelé auprès de mes anciens compagnons. C'est une chose que vous comprendrez certainement avant que peu de jours soient écoulés. J'emmène notre Eddy avec moi comme ma femme, et il pourrait bien se faire qu'en des jours plus paisibles, vous nous revoyiez à Westinch. En attendant, agréez l'assurance de mon affection et croyez que je n'oublierai jamais les mois tranquilles que j'ai passés chez vous, en un temps où je n'aurais eu tout au moins qu'une semaine à vivre si j'avais été fait prisonnier par les Alliés. Mais vous serez peut-être aussi quelques jours par la raison de cela, votre bien dévoué, Bonaventure de Lissac, colonel des voltigeurs de la garde et aide-de-camp de Sa Majesté impériale, l'empereur Napoléon. Ma voix devint sifflante quand j'en fus au mot dont il avait fait suivre son nom. Sans doute, j'en étais venu à la conviction que notre hôte ne pouvait être qu'un de ces admirables soldats dont nous avions tant entendu parler et qui s'étaient frayés passage jusque dans toutes les capitales de l'Europe, à une seule exception, la nôtre. Pourtant, je n'ai guère cru que nous eussions sous notre toit l'aide-de-camp de l'empereur et un colonel de sa garde. Ainsi donc, dis-je, il se nomme de Lissac et non de Lappe. Eh bien, colonel ou non, il est heureux pour lui qu'il se trouve loin d'ici, avant que Jim ait mis la main sur lui. Et il n'était que temps, ajoutai-je, en jetant un regard en dehors par la fenêtre de la cuisine, car voici notre homme qui arrive par le jardin. Je courus vers la porte au-devant de lui. Je sentais que j'aurais payé bien cher pour le voir repartir à Édimbourg. Il arrivait à grands pas, agitant un papier au-dessus de sa tête. Je m'imaginais que c'était peut-être un billet d'Eddy et que dès lors il savait tout. Mais quand il fut plus près, je vis que c'était une grande feuille raide et jaune qui craquait quand on l'agitait et qu'il avait les yeux pétillants de joie. Hurrah, Jacques! Cria-t-il. Où est-il? Où est-il? Qu'est-ce qu'il y a, l'ami? Demandai-je. Où est-il? Qu'est-ce que vous avez là? C'est mon diplôme, Jacques. Je puis exercer quand je voudrais. Tout va bien, je veux le montrer à Eddy. Le mieux que vous puissiez faire, Jim, c'est de ne plus songer à Eddy, répondis-je. Jamais je n'ai vu la figure d'un homme s'altérer comme la sienne quand j'eus dit ces mots. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, John Calder? Balbutia-t-il. En parlant ainsi, il avait lâché le précieux diplôme que le vent emporta par-dessus la haie, à travers la lande, jusqu'à une touffe d'ajonc où il s'arrêta en voltigeant, mais Jim n'y fit aucune attention. Ses yeux étaient fixés sur moi, et dans leur profondeur, je voyais une lueur diabolique. Elle n'est pas digne de vous, dis-je. Il m'empoigna par l'épaule. Qu'avez-vous fait? Dit-il à voix basse. Ça doit être encore un tour de votre façon. Où est-elle? Elle est partie avec ce Français qui logeait ici. Oh, j'avais complètement réfléchi longuement sur la meilleure façon de lui faire passer la chose en douceur. Mais j'ai toujours été fort maladroit dans mes discours et je ne pus rien trouver de mieux que cela. Oh! Fit-il en hochant la tête et en me regardant. Pourtant, j'étais certain qu'il était hors d'état de voir la ferme, de voir quoi que ce fût. Il resta ainsi une ou deux minutes, les mains étroitement jointes et toujours balançant la tête. Puis il fit le geste d'avaler péniblement et parla d'une voix singulière, sèche, rauque. Quand est-ce arrivé? Ce matin. Ils étaient mariés? Oui. Il posa la main sur un des montants de la porte pour se raffermir. Un message pour moi ? Elle a dit que vous lui pardonneriez. Oh, que Dieu damne mon âme si jamais je le fais ! Où sont-ils allés ? Ils ont dû aller en France, à ce que je crois. Il se nommait Delaps, me semble. Non, son vrai nom, c'est de Lissac, et il n'est rien moins que colonel dans la garde de Bonnet. Alors, selon toute probabilité, il est à Paris. C'est bien, c'est bien. Tenez bon, criai-je. Père, père, apportez le brandy. Ses genoux avaient ployé un instant, mais il redevint lui-même avant que le vieillard fût accouru avec la bouteille. « Rapportez-la, » dit Jim. « Prenez une gorgée, monsieur Ashcroft, » s'écria mon père en insistant. « Cela vous remontera le cœur. » Jim saisit la bouteille et la lança par-dessus la haie du jardin. « C'est excellent pour ceux qui tiennent à oublier, » dit-il, « mais moi je tiens à me souvenir. » « Que Dieu vous pardonne ce gaspillage coupable, » s'écria mon père d'une voix forte. « Et aussi d'avoir failli casser la tête à un officier de l'infanterie de Sa Majesté, » dit le vieux major Elliot en se montrant au-dessus de la haie. « Me serais contenté d'une lampée après une promenade matinale, mais une bouteille qui vous frise l'oreille en sifflant. Mais qu'est-il donc arrivé que vous restez là tous aussi immobiles que des gens rangés autour d'une fosse à un enterrement ?» Je lui expliquai en quelques mots nos chagrins, pendant que Jim, la figure d'une pâleur cendrée et les sourcils froncés très bas, restait adossé au montant de la porte. Le major, quand j'eus fini, se montra aussi furieux que nous, car il avait de l'affection pour Jim et pour Eddie. « Peu, dit-il, je redoutais constamment quelques événements de ce genre depuis cette histoire de la tour d'alarme. Oh, cette conduite est bien d'un Français. Ils peuvent pas laisser les femmes tranquilles. Du moins, de Lissac l'a épousée, c'est là une consolation. Mais il est guère temps maintenant de songer à nos petits tracas, car toute l'Europe est en révolution, et selon toute probabilité... Nous voici avec 20 autres années de guerre sur les bras. Mais que voulez-vous dire ? Demandai-je. Eh, mon ami, Napoléon est débarqué de l'île d'Elbe. Ses troupes sont accourues autour de lui et le roi Louis s'est sauvé à toutes jambes. La nouvelle en est arrivée à Berwick ce matin. Grand Dieu ! S'écria mon père. Alors, voici cette terrible besogne entièrement à recommencer. Oui, nous nous étions figurés que l'ombre n'était plus là, et il y est encore. Wellington a reçu l'ordre de quitter Vienne pour se rendre dans les Pays-Bas, et on croit que l'empereur fera une sortie d'abord dans cette direction. C'est un mauvais vent, un vent qui ne présage rien de bon. Je viens justement de recevoir la nouvelle que je dois rejoindre le 71e régiment comme premier major. Assez beau, je serrai la main à notre bon voisin, car je savais combien il était humilié de se voir traité en invalide qui n'avait plus de rôle à jouer en ce monde. Il faut que je rejoigne mon régiment le plus tôt possible et nous serons là-bas, de l'autre côté de l'eau, dans un mois, peut-être même à Paris dans un autre mois. Alors, « par le Seigneur, Major !» s'écria Jim Ashcroft. « Je pars avec vous. Je ne suis pas trop fier pour refuser de porter le fusil, si vous voulez me mettre en face de ce Français. »« Bon garçon, » dit le Major, « je serai fier de vous avoir sous mes ordres. Quant à de Lissac, où sera l'empereur, il sera aussi. » Vous savez son nom, dis-je. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre de lui ? Il n'y a pas de meilleur officier dans l'armée française, et pourtant, c'est beaucoup dire. Il paraît qu'il serait devenu maréchal, mais qu'il a préféré rester auprès de l'empereur. Je l'ai rencontré 2 jours avant l'affaire de la Corraille, lorsque je fus envoyé en parlementaire pour négocier au sujet de nos blessés. Il était alors avec Soult, je l'ai reconnu en le voyant. Et je le reconnaîtrai aussi en le voyant, dit Ascroft avec ce dur et mauvais regard qu'il avait jadis. Et à cet instant même, en cet endroit même, je me rendis soudainement compte combien mon existence serait piteuse et inutile pendant que notre ami l'invalide et le compagnon de mon enfance seraient au loin exposés en première ligne aux fureurs de la tempête. Ma résolution fut formée avec la promptitude de l'éclair. Je partirai aussi avec vous, major, m'écriai-je. Jacques, Jacques, dit mon père en se tordant les mains. Jim ne dit rien, mais il passa son bras autour de moi et me serra la taille. Le major avait les yeux brillants et brandissait sa canne en l'air. Ma parole, dit-il, voici de belles recrues que j'aurai derrière moi. Eh bien, il n'y a pas un moment à perdre. Il faut donc que vous vous teniez prêts tous les deux pour la diligence du soir. Voilà ce que produisit une seule journée. Et pourtant, il peut arriver que des années s'écoulent sans amener un changement. Songez donc aux événements qui s'étaient accomplis dans ces 24 heures. De Lissac parti, Eddy parti, Napoléon évadé, la guerre éclatée. Jim Southcott a tout perdu. Lui et moi, nous faisons nos préparatifs pour nous battre contre les Français. Tout cela eut l'air d'un rêve jusqu'au moment où je me dirigeais vers la diligence du soir et me retournais pour jeter un regard sur la maison grise et 2 petites silhouettes noires. C'était ma mère qui enfouissait son visage dans les plis de son châle de Shetland et mon père qui agitait son bâton de meneur de bétail pour m'encourager dans mon voyage.